Le président iranien a souhaité voir le succès des efforts du Conseil suprême afghan pour la réconciliation nationale en faveur de la paix et de la stabilité en Afghanistan. En Syrie, les forces d'occupation turques et leurs mercenaires des réseaux terroristes ont visé à l'artillerie la localité d'Ain Issa dans la banlieue nord de Raqqa. Et à 2 semaines de l'élection suprême en Côte d'Ivoire, des affrontements ont éclaté entre Agni et Dioula, respectivement proches de l'opposition et du pouvoir. C'était les titres. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a reçu ce lundi 19 octobre le chef du Conseil suprême pour la réconciliation nationale en Afghanistan, Abdullah Abdullah. M. Rouhani a exprimé son espoir de voir le succès des efforts du Conseil suprême afghan pour la réconciliation nationale en faveur de la paix et de la stabilité en Afghanistan. Il est important que le peuple afghan parvienne à une paix réelle après des années de guerre et de conflits pour pouvoir préserver ses réalisations. La solution à ce problème est le dialogue politique et les négociations inter-afghanes. Affichant une fois de plus son soutien aux efforts déployés par ce Conseil, le président iranien a ajouté « Le rétablissement d'une paix, d'une stabilité et d'une sécurité durable en Afghanistan, pays voisins et frères, revêt une importance particulière pour la République islamique d'Iran ». Un avion militaire américain a effectué le dimanche 18 octobre un atterrissage d'urgence dans un aéroport de la province de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, a confirmé la coalition US. Un C-17 Globemaster de l'US Air Force a effectué un atterrissage d'urgence à l'aérodrome de Kandahar ce matin, ont tweeté dimanche les forces américaines en Afghanistan qui font partie de la coalition dirigée par l'OTAN. Aucun blessé n'a été signalé et l'aérodrome est ouvert uniquement au trafic militaire, a déclaré l'armée américaine. La coalition a nié l'implication d'opposants armés au gouvernement afghan dans l'incident, affirmant que l'activité ennemie n'avait pas été signalée. L'incident fait l'objet d'une enquête, a ajouté la coalition. En février dernier, un bombardier E-11A de l'US Air Force s'est écrasé lors d'une opération de reconnaissance. Tous les passagers de l'avion, membres de la CIA, avaient été tués dans cet incident. Les talibans ont revendiqué cet accident dans un communiqué, mais des responsables américains ont déclaré que le crash de l'avion ne s'était pas produit par le feu de l'ennemi. Cela intervient alors que les militaires américains ont été contraints ce vendredi 16 octobre d'abandonner leur base aérienne après une attaque massive des talibans en Afghanistan. L'attaque à grande échelle des talibans contre la base américaine dans la province de Helmand a été si inattendue et fulgurante que les troupes américaines ont dû abandonner la base sans même la défendre. Les troupes au sol ont été évacuées d'urgence par hélicoptère. Ansar Allah du Yémen a repoussé une offensive d'envergure des mercenaires à l'assaut de Riyad dans la province d'Al-Zali au sud du Yémen. Les forces de l'armée yéménite et les combattants des comités populaires liés à Ansar Allah ont repoussé le dimanche 18 octobre une vaste offensive des mercenaires pro-Hadi à l'assaut de Riyad contre la région de Maris dans la province d'Al-Zali. Lors de cette contre-attaque qui a duré des heures, des dizaines de mercenaires ont été tués ou blessés. Par ailleurs, le président du Conseil politique suprême du Yémen, Mohamed Ali Al-Houssi, a déclaré que les courriers de Hillary Clinton avaient prouvé que les États-Unis exerçaient une ingérence directe dans les affaires du Yémen. Dans un tweet publié sur son compte officiel, Mohamed Ali Al-Houssi a écrit « Les courriels de Hillary Clinton font preuve de 4 réalités. Premièrement, les personnalités révolutionnaires de parti sont nommées et écartées par les Américains. Deuxièmement, les révolutionnaires d'Ansar Allah bénéficient du soutien du peuple yéménite. Troisièmement, les plans proposés par certains partis sont en réalité planifiés par les Américains. Et quatrièmement, la révolution de vos enfants dans le mouvement Ansar Allah a renversé les partisans des États-Unis et a déjoué leur dessein. En Syrie, les forces d'occupation turques et leurs mercenaires des réseaux terroristes ont visé à l'artillerie la localité d'Ain Issa dans la banlieue nord de Raqqa. Des sources locales ont déclaré aux correspondants de l'agence de presse officielle syrienne Sana que plusieurs obus d'artillerie avaient été tirés par les forces d'occupation turques et leurs mercenaires sur la périphérie de la localité d'Ain Issa, dans la banlieue nord de Raqqa, ce qui a fait des dégâts matériels. Ces sources ont indiqué qu'un état de panique et de peur avait régné sur les habitants dans les villages et localités proches des zones de déploiement des réseaux terroristes et des frontières avec la Turquie en raison de violents bombardements qui avaient visé les fermiers dans leurs terres et les machines agricoles. Par ailleurs, Le correspondant de Sana'a, Asaka, a indiqué que les FTS avaient encerclé les maisons des civils dans les logements de la police dans le quartier de Gveiran, les appelant à les quitter. Des sources locales ont révélé que des groupes armés des FTS avaient pris d'assaut un certain nombre de maisons d'habitants dans la ville de Tabra, à environ 40 km à l'ouest de la ville de Raqqa, et enlever un certain nombre de jeunes hommes dans le but de les mobiliser dans des camps d'entraînement et les obliger ensuite à combattre dans leurs rangs. Au nord de la ville de Raqqa, les sources ont indiqué que des groupes armés des FTS ont enlevé 3 civils après avoir attaqué une maison dans le village de Sakir et les avoir emmenés vers une destination inconnue. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté le lundi 19 octobre 9 Palestiniens dans de différentes zones en Cisjordanie. L'agence presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces d'occupation avaient pris d'assaut nombre de localités et villages à Al-Rotz occupés, à Al-Khalil, à Bethlehem et à Galridiya, attaqué et fuyant un certain nombre de maisons des Palestiniens et arrêté 9 parmi eux. D'autre part, l'agence presse palestinienne Wafa a révélé que 74 colons avaient pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa depuis la porte des Maghariba et fait des tournées provocatrices dans ses cours sous une garde stricte des forces d'occupation israéliennes. Quittons la région et allons directement en France, où les surcoûts liés aux opérations extérieures OPEX et aux missions intérieures MISINT ont atteint en 2019 1,4 milliard d'euros, alors que 950 millions avaient été prévus pour les financer. Si la loi de programmation militaire LPM 2019-2025 prévoit le recours à solidarité interministérielle pour financer la différence, la solution retenue a consisté à redéployer des crédits qui n'avaient pas été consommés par le ministère de la Défense, notamment ceux du titre 2. Pour cette année, l'enveloppe des surcoûts OPEX et MISINT a été portée à 1,1 milliard d'euros, un montant auquel il faut ajouter 100 millions pour la masse salariale des missions intérieures, ce qui fait au total 1,2 milliard d'euros de ressources pré-identifiées. Cela étant, avec notamment les renforts envoyés au Sahel, Barkhane, la poursuite de l'engagement au Levant, Jamal, la mission Lynx et la protection de l'espace aérien des Pays-Baltes dans le cadre de l'OTAN, l'intervention à Beyrouth, opération Amitié, la mission de surveillance près du détroit d'Hormoz à Gunor, la participation ponctuelle à l'opération navale européenne Irini, la présence au sein de la FINUL d'Amman et le lancement de la mission Résilience, il est à craindre que cette somme soit encore insuffisante, ce qui poserait à nouveau et pour la énième fois le débat de la prise en charge de ces surcoûts à l'occasion du traditionnel projet de loi de finances rectificatif PLFR, d'où les questions posées par les parlementaires sur la fin de gestion pour l'exercice en cours à Florence Parly, la ministre des Armées. Et à 2 semaines de l'élection suprême, des affrontements ont éclaté entre Agni et Dioula, respectivement proches de l'opposition et du pouvoir en Côte d'Ivoire. Bandana vert, camouflage sur la tête, huile de vidange sur le visage, un jeune membre de la communauté Agni, les yeux exorbités, crie « Machette à la main » s'arrache envers cette ethnie originaire du nord de la Côte d'Ivoire, un barrage de Bongouanou à 200 km au nord d'Abidjan. La campagne électorale de la présidence du 31 octobre en Côte d'Ivoire a dégénéré à Bongouanou, en affrontement intercommunautaire opposant des Agni, ethnies locales considérées comme proches de l'opposition, et des Dioula, venus du Nord et réputés proches du pouvoir. Au moins 2 personnes sont mortes dans les violences survenues dans ce fief de l'un des candidats de l'opposition, Pascal Lafif Nguessan, ancien premier ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont la maison a été incendiée. Voilà, si ça achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Israël perdra le Golan, c'est le titre du commentaire politique. Ce cassotte pourrait exiger au candidat président Trump un écart de 14% dans les sondages d'opinion par rapport à Sleepy Joe, en échange de la mise en liberté de 2 ressortissants agents US que détient la Syrie pourrait bien aller au-delà d'une simple restitution de la base d'Al-Tanf située sur le triangle Syrie-Jordanie-Irak par où Israël croit pouvoir harceler, encore au moins pour quelque temps, l'armée syrienne. En effet, la presse libanaise nous apprenait il y a quelques jours la visite de 5 jours du chef de la sécurité suprême libanaise, le général Abbas Ibrahim, aux États-Unis. Un avion spécial américain aurait transporté le général Abbas Ibrahim mercredi 14 octobre à Washington, où il aurait rencontré des responsables de la CIA et du FBI à Washington. Le site syrien Antiasat Inab Baladi y est allé même jusqu'à écrire que la question de la libération de X et Y avait été évoquée aux grandes dames d'Israël, puisque si les États-Unis quittent Al-Tanf, base qu'ils détiennent depuis 2016, cela n'ira que profiter à l'armée syrienne et à l'axe de la résistance qui n'attendent que leur or pour s'emparer, après le point de passage à Abu Kamal Raem, de cet autre point de passage stratégique reliant l'Irak à la Syrie. Et n'a pas la dit s'inquiéter qu'un tel échange priverait Israël du ciel d'Al-Tanf, par où il a lancé son dernier raid contre Alep et l'aéroport de Damas fin août. Ce lundi, le Wall Street Journal lève un coin du voile sur le dialogue Assad-USA, contribuant à attiser les inquiétudes. Début d'année en cours, un responsable de la Maison-Blanche s'est rendu à Damas pour tenir des réunions secrètes avec le gouvernement syrien afin de demander la libération d'au moins 2 Américains détenus par le gouvernement légitime syrien. La question des détenus américains à l'étranger est l'une des priorités de l'administration Trump depuis le début du mandat de ce dernier. Elle tenait à libérer des prisonniers en Corée du Nord et a également exercé une forte pression pour la libération des détenus en Iran, d'où la visite de l'assistant du vice-président américain pour l'affaire de la lutte contre le terrorisme, Gash Patel, en personne à Damas. Mais si Assad finissait par exiger plus que le retrait US d'Al-Tanf, c'est une possibilité. Il y a quelques jours, le président syrien Bachar al-Assad a balayé d'un revers de main toute normalisation avec Israël en affirmant que son pays exigeait du préalable un retrait d'Israël du Golan occupé. Un Golan qui, rappelons-le, constitue le front aérien nouveau entre la Syrie et Israël, vu le déploiement des batteries de Desam et d'Iran dans cette région. Dans l'état où se trouve Trump, il serait prêt à faire une telle concession. D'ailleurs, cette possibilité semble bien inquiéter les Israéliens. Dror Shalom a même exigé la liquidation d'Assad dans la foulée. Il y a quelques jours, le chef de la division de la recherche du renseignement militaire israélien déclarait dans une interview au journal Ilaf qu'Israël considère le président syrien comme son ennemi, estimant qu'il aurait dû être tué en utilisant des armes chimiques. Le sioniste répondait à l'entretien d'il y a une semaine du président syrien qui a commenté la perspective de normalisation des pays arabes avec Israël. Il est hors de question que la Syrie normalise avec Israël avant que le Golan ne soit restitué, a dit le président syrien. La rage anti-Assad de Shalom renvoie à quoi ? La crainte de voir le Golan se transformer en une base balistique de la résistance contre Israël possible. Après la Desam et d'Iran déployée sur les frontières syriennes et du sud du Liban, le Golan pourrait bien accueillir les missiles iraniens. Et ce sera alors le début de la libération des territoires occupés syriens.